Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau numéro de DTC dans ta collection, le podcast consacré à la collection de jeux vidéo. En effet, nous sommes de plus en plus nombreux à rechercher, chiner et exposer ce médium qui nous a fait tant rêver et qui continue de nous faire rêver. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle musique comme vous avez pu l'entendre et pour ce nouveau numéro, je suis accompagné de Hudson Neck. Comment ça va?
Salut, ouais, ça va très bien.
Cool. Et on a un nouveau membre qui se joint à la team DTC pour représenter la partie micro, surtout Redrum. Comment ça va?
Salut, ça va très bien, merci.
On attend aussi Megatron qui devrait arriver d'un moment à l'autre. Donc du coup, si vous l'entendez pendant le podcast, ce sera complètement normal. Donc au sommaire de cette nouvelle émission, on a toujours notre section actu dans laquelle on va parler des dernières trouvailles, nos dernières acquisitions. Après, pour la partie News Collection, on va vraiment parler d'Adol, un collectionneur bien connu du milieu qui a revendu une partie de sa collection à un groupe de musées nord-américains. Par contre, on va pas parler de la vente aux enchères qui a eu lieu le 13 juin, parce qu'on en a suffisamment parlé. Ensuite, on va s'intéresser à savoir comment, justement, en tant que collectionneur, comment on se procure nos jeux. Entre les différentes solutions qui s'offrent à nous, donc entre internet, les brocantes, les ventes de garage, les boutiques spécialisées et tout ça. Donc du coup, on va faire un tour de table pour savoir comment on s'y prend. Donc du coup, on va démarrer. Du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé dernièrement, Hudson?
Bah écoute, moi depuis le dernier colis que j'ai reçu, pas grand-chose. Là, j'ai un nouveau colis qui part demain, donc voilà, à venir. Okay. Sinon, bah principalement entre deux, bah la compile Neo X, tu sais, pour la portable,
okay. Ouais.
Présentée dans sa cartouche AES, là vraiment, elle est très très belle. Compilation de 15 jeux, assez bien choisis, avec Blazing Star, le Slug 2, du Top Hunter. Voilà, pas mal foutu quoi. Bon, après ça changera clairement pas le futur de la console non plus, hein. Mais bon, voilà, c'est une jolie pièce à avoir, je pense.
Ah, ok. Et on accueille Megatron. Comment ça va?
Salut tout le monde.
Ciao.
Salut.
Ça va?
Bah ouais, bah
et
ouais.
Toi
parfaitement.
Ouais, ça va.
Cool. Donc voilà, Megatron nous a rejoint. Bah maintenant on va passer à Redrum. Du coup, t'as eu des trucs de ton côté?
Ouais, en fait, bon bah moi je reste fidèle moi-même, c'est-à-dire que j'ai plus acheté du matériel que des jeux en fait. C'est un petit peu mon travers, on va dire. Donc récemment, j'ai attrapé un Commodore 128, qui est une pièce que j'avais jamais eue auparavant, y compris dans la collection que j'avais en France. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, habituellement, je tombe sur des gens qui ne sont pas des collectionneurs, qui cherchent juste à vider leur garage ou leur grenier. Puis là, je suis tombé sur un aficionados comme nous, qui lui aussi se débarrassait, mais pour se concentrer sur une autre type de machine. Et du coup, il m'a donné un deuxième Commodore 128 que j'étais pas censé acheter,
okay.
Gratuitement. Donc c'était plutôt cool,
classe,
et en boîte en plus. Il a juste un petit défaut, mais que je peux corriger avec une ou deux soudures sans problème.
Okay.
Et puis j'ai reçu aussi un colis que j'ai de la France avec une vingtaine de jeux pour Commodore 64 en cassette,
okay.
Dont l'excellent Star Wars en fil de fer à l'ancienne. Et puis j'ai eu le premier Street Fighter aussi, qui est absolument horrible mais qui est très marrant à faire.
Ah, qui était sorti sur Commodore 64.
Et oui, tout à fait. Okay. Et un Double Dragon aussi en cassette. Enfin, donc voilà, plutôt pas mal. Voilà.
Ok. Cool. Donc ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Redrum comme moi est expatrié ici au Québec, à Montréal,
ouais.
Et donc du coup c'est pour ça que il reçoit des colis de la France. Du coup Megatron, de ton côté, tes arrivages?
Bah écoute, avec beaucoup de galères, mais j'ai réussi à avoir le prochain X-Zone sur 3DS.
Ah oui, que tu recherchais, j'ai vu.
Voilà, j'ai eu de la chance de choper le dernier sur Jussieu, donc c'est un quartier de sur République, pardon, c'est un quartier de Paris.
Mm-hmm.
Et bah du coup, il y a encore 2-3 personnes qui le recherchent et il est vraiment facile à mettre la main dessus. Le Mario Dream Team aussi que j'ai récupéré, mais j'ai pas encore eu le temps de tester. Donc pareil sur 3DS, et le artbook de Amano qui est sorti récemment sur Amazon.fr.
Ah ouais, c'est vrai qu'il est sorti. Ah, j'ai complètement zappé.
et qui pèse bah, une tonne à lui tout seul. Donc
Ok.
c'est hallucinant le poids qu'il fait, quoi. Mais il est superbe, quoi. Franchement, il est superbe. Il est très bien fini.
Mais il est en quelle langue? Japonais, anglais, français?
Non, il est en anglais.
Ah, il est en anglais, c'est déjà pas mal.
Complètement en anglais. Non, l'impression sur le papier, il est d'une très bonne qualité. Le fourreau, pareil, un simili tissu, très 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 sympa.
Mais c'est pas quelque chose qui était déjà sorti et qui était ressorti après ou quelque chose comme
Ouais,
ça?
si, exactement. Il était déjà sorti une première fois. Il était apparemment en rupture de stock parce que j'ai suivi que sur Amazon. Et là, du coup, bah, apparemment, il est ressorti, mais sur Amazon Europe, donc du coup, frais de port gratuit.
Ok, ouais, parfait. Ok, cool. Donc c'est le nom, c'est The Sky, c'est ça?
Ouais, exactement. Ouais. Un coffret de 3 volumes.
Trois volumes. Ah ouais, donc ouais, tu
Ouais,
m'étonnes que ça pèse une tonne,
qui
quoi.
regroupe bah, tous les artworks de Final 1 à 10, je crois, si je me trompe pas.
Ok, d'accord. Ah ouais, ça fait du lourd quand même.
Ouais, pas mal, pas mal.
Ok, cool. Bah moi de mon côté, bah, j'ai enfin terminé de collecter l'argent pour les 5 consoles que je devrais recevoir d'ici la fin du mois d'août normalement, si tout se passe bien. Et du coup, entre-temps, bah, je me suis trouvé enfin une Super NES américaine que je cherchais déjà depuis un petit moment et puis mais à bon prix en fait, quoi. Et du coup là, j'ai eu de la chance en sortant du boulot. Il y avait des ventes de garage, comme on dit ici, quoi. Et il y avait donc un magasin qui voulait se débarrasser de plein plein de choses, et donc du coup dont une Super NES, mais seulement donc la console et deux manettes, que j'ai eu pour 9 $, quoi. Donc du coup ça va, je m'en suis pas trop mal tiré, surtout que la console est pas du tout sunfade, pas du tout jaunie ou quoi que ce soit. Donc du coup ça fait vraiment plaisir. Là j'attends les câbles qu'un de mes cousins devrait m'amener, parce qu'il vient passer quelques vacances ici. Donc du coup on verra si ça marche, mais du coup bah, ça devrait être le cas. Ça va être bien cool.
Ouais, j'en cherche une aussi, tiens.
Eh ben si j'en trouve une, je te la prends. Enfin, à ce prix-là, je te la prends, pas de souci.
Et même cassé, hein, parce que je recherche uniquement toute la partie où il y a le clapet, en fait.
Ah ok.
Donc je cherche
Ah
juste
bah
ça. Que même si
ouais
elle est
bah.
cassée en ruine, ça m'intéresse quand même.
Si elle est jaune.
Ah, pas de souci non plus.
Ah, ok, ça marche. Bah ouais, bah ça devrait être possible, quoi. Je pense que ouais, ton message a été entendu, puis ouais, je regarderai si j'envoie une dans le coin, quoi, pas de souci.
Je
Bah
regarde, je
merci.
regarderai aussi si tu veux.
Ah bah c'est cool, ouais, je veux bien. Merci.
Okay. Bah parfait. Donc du coup, maintenant on va passer à la partie news, et donc du coup, comme on le disait dans l'intro, on va parler d'Adol qui a revendu donc une partie de sa collection à un groupe de musées américains. Dommage que ce soit pas ici au Canada, sinon on aurait pu aller la voir. Et du coup, bah, on va faire un tour de table pour savoir ce que vous en pensez, savoir si vous avez suivi ça. Donc du coup, bah, je vais peut-être commencer par toi, Edson, parce que t'as l'air d'être pas mal renseigné sur le sujet.
Disons que moi, c'est une collection que je connais depuis longtemps.
Ok.
Adol est quelqu'un avec qui j'ai discuté assez souvent à l'époque sur Gamekult.
Ok.
Moi, j'avoue que le fait qu'il l'ait vendu, je trouve que c'est con à dire, mais il y a quelque chose d'un peu triste,
Ah
je
oui,
trouve.
c'est bon.
Parce que il est clair que pour lui, c'est un plan en or, c'est-à-dire il est tombé, et tant mieux pour lui, hein, sur un client sérieux. Il sait que cette collection va être quand même gardée et exposée dans de bonnes conditions. Maintenant, moi, la seule chose que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que je trouve qu'au passage, ça a quand même certainement perdu un peu de passion. C'est un musée du jouet, musée américain. Donc certainement que les gars, ils touchent un petit peu en jeu vidéo. Maintenant, de là à dire que c'est forcément des passionnés et des connaisseurs de rétro japonais. J'irais peut-être quand même pas jusqu'à dire ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont payés une superbe vitrine, mais est-ce qu'ils ont vraiment les connaissances? Est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils ont acheté, l'histoire qu'il y a derrière et compagnie? Voilà, moi, c'est juste un petit peu ça que je trouve dommage. Ça, plus le fait que ces derniers mois, dernières années, il y a quand même d'autres très très grosses collections qui ont été vendues, comme par exemple celle à Thibaut qui avait une collection PC Engine absolument fantastique. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu triste là-dedans, quoi. Mais bon, après voilà, tant mieux pour lui s'il est content. Et puis comme il le dit lui-même, ben ça permettra à d'autres personnes de peut-être l'avoir. Donc voilà, c'est bien, mais voilà, je pense que c'était quand même une collection qui a fait référence pendant des années, qui a motivé certainement plein de gens. Moi, j'avoue qu'à l'époque, quand je l'ai connu, ça m'a donné envie de moi aussi me faire un truc qui me plaise vraiment, et certainement que ça m'a motivé aussi à taper dans des pièces un peu qui sortent du commun. Donc voilà, je pense que c'était pas une info anodine. Il a vendu un truc extraordinaire, et puis bah voilà quoi.
Ok. Ouais, c'est vrai que donc moi pareil pour je le connais, enfin j'ai jamais vraiment discuté avec lui, mais j'avais vraiment suivi sa collection parce que c'est vrai que c'était une des collections c'est même toujours une des collections références parce qu'il a vendu enfin une grosse partie de sa collection, mais il lui en reste quand même il a vendu apparemment 7000, mais donc du coup apparemment il lui en reste quand même pas mal de ce qu'il disait sur le forum justement, s'il nous a fait un retour. Il a vendu des trucs qu'il pourrait retrouver plus ou moins facilement. Puis il a gardé vraiment ce qui l'intéressait le plus, tout ça parce que et surtout je crois que la raison c'était parce que il va être papa tout bientôt, ou il vient d'être papa et du coup il voulait vraiment vraiment être tranquille de ce côté-là et avoir de la place en plus. Donc du coup c'est plutôt une bonne chose, quoi. Du coup les autres vous en pensez quoi, Mégatron de ton côté?
Moi personnellement je connaissais pas du tout. Pareil, j'ai découvert sa collection pas si longtemps que ça, et du coup j'ai suivi ça de loin. Par contre, je rejoins un peu l'avis de Hudson. C'est bon, ok, c'est très bien, ça va finir dans un musée, donc je pense que ça va être plutôt bien conservé. Maintenant, après, je sais pas comment eux ils vont interpréter ce qu'ils vont recevoir. Si c'était juste le fait de voilà de choper tout un énorme lot, en fait. Après, j'aimerais bien voir justement à quoi ça va ressembler une fois que ce sera exposé. Où est-ce qu'ils vont, comment ils vont agrémenter tous les textes, enfin tout ce qui est textuel autour des jeux, autour de certaines pièces. Et du coup, je me pose des questions, ouais, savoir si c'est vraiment de bons gros connaisseurs. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'est dommage que ça parte à l'étranger. Ça aurait été pas mal que ça finisse dans un musée plus proche de chez nous, on va dire.
Ouais, MO5 même carrément.
Voilà, ouais, à la rigueur, ouais, pourquoi pas. Mais bon, du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage, ça part un petit peu loin, donc j'aurais peut-être pas l'occasion d'aller voir ça de plus près. Mais j'espère qu'il y aura des photos, qu'on puisse avoir un petit peu les retours. Et puis pour le vendeur, effectivement, le fait d'être papa, bon, voilà, c'est peut-être la bonne occasion de tourner une page importante, parce que c'est pas rien non plus. Et puis je pense qu'il devait avoir beaucoup de, enfin ça devait prendre beaucoup de place, donc je pense que c'est aussi peut-être une des raisons. Mais bon voilà, après il a gardé pas mal de pièces qui lui tiennent à cœur, donc je pense qu'il y a toujours cette petite flamme qui brille encore au fin fond de sa personne. Donc peut-être qu'il reviendra dans la partie plus tard. En tout cas, je lui souhaite, mais en tout cas c'est pas sa flamme, c'est pas complètement éteinte quoi. C'est déjà pas mal, je trouve.
Bon, après, juste parce qu'on a parlé de MO5, bon, il faut quand même être un tout petit peu réaliste, hein, je vous apprends rien. Une assoce, une structure comme MO5 aurait jamais pu gérer une telle collecte. C'est juste impossible, ne serait-ce que
Ouais,
financièrement. Hein.
ouais,
Je veux dire,
c'est forcément.
Adol, voilà, c'est vrai que Adol s'en est expliqué. Moi, parce que j'ai lu à gauche à droite, effectivement, pas mal de gens qui entre guillemets, critiquaient ça. Bon, il faut être réaliste, quoi. Il faut être réaliste.
Ouais, mais après aussi non seulement financièrement, mais plus après au niveau de l'espace, quoi. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans les locaux de MO5 là, dans leur local qu'ils ont depuis 2010, je crois 2009 ou 2010. C'est vrai que c'est déjà bien plein. Même s'ils ont deux étages, c'est déjà quand même bien bien rempli. Donc là, c'est vrai que 7000 jeux plus les machines et tout ça, c'est vrai que ça se trouve ça se serait enfin ça serait même pas passé, quoi. Toi, du coup, Redrum, de ton côté, t'as suivi un petit peu ça,
Ben, moi, c'est un peu comme Megatron, en fait. J'ai appris ça récemment. J'en avais entendu parler vaguement, mais sans suivre ça de près. Pour ma part, je rejoins un peu les deux avis de Megatron et d'Hudsonic, mais surtout sur la partie flamme. C'est-à-dire que je comprends tout à fait et je suis concerné ce qui peut se passer dans la tête quand on a des enfants. Et il est possible que voilà, il ait remis certaines choses en cause, et puis que il ait vu que il y a des choses plus importantes qui se profilaient à l'horizon. malgré que ce soit important pour nous, bien sûr, quand même, cet aspect collection. Mais bon, je me mets à sa place, en tout cas pour cette partie-là, je peux tout à fait comprendre. Pour ce qui est du fait que ça parte à l'étranger, c'est vrai que c'est aussi dommageable. Mais clairement, comme ça vient d'être dit, MO5, je pense pas que, les connaissant très bien, ils auraient pu assurer niveau financier, en tout cas, avant l'espace, parce que s'ils avaient pu se payer une collection comme ça, je suis sûr qu'ils auraient trouvé la place pour faire quelque chose. Mais pour la partie américaine, moi, je vois ça plutôt comme un investissement, et je me demande si ces gens-là ont pas une idée derrière la tête, justement, d'ouvrir peut-être un musée spécialisé et pas forcément l'utiliser en l'état dans les locaux qu'ils ont ou dans les musées qui sont déjà dans leur groupe, quoi, en fait.
Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'on a vu le MoMA qui commençait à exposer des jeux. On a vu, il y avait un musée à Washington aussi qui faisait ça. Enfin, ça se trouve, c'est le même, mais je crois pas. Non, le MoMA, il est à New York. Et donc, celui de Washington, il y avait eu aussi celui de Washington, mais j'arrive plus à retrouver le nom, qui a commencé aussi à exposer des jeux. Donc ouais, ça commence vraiment à s'ouvrir. Donc en tout cas, moi,
Voilà.
ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a ça dans des musées, quoi.
Ouais, bien sûr, je pense qu'il voilà, il faut voir ça comme un investissement, peut-être pas immédiat, mais peut-être à quelques mois, années d'ici là. Et puis voilà.
Oui, parce que entre toutes les expositions que MO5 a faites déjà en France, plus une histoire du jeu vidéo qui est donc la transposition de Game Story à Québec, ça commence à s'exporter, ça commence à se faire connaître, donc du coup c'est plutôt une bonne chose. Je voudrais juste rajouter, donc comme une Sudneck le disait en off tout à l'heure, que donc par contre au niveau du prix, faut pas croire tout ce que vous voyez sur Internet, hein. Le prix de 1 million d'euros qui avait été donc annoncé, c'était plus une pub et plus une intox qu'autre chose. C'était une annonce sur eBay qui était parue l'année dernière et du coup enfin voilà, donc c'est pas forcément à ça qu'il faut se fier, quoi.
Non, alors juste, moi je dis pas que c'était de la pub ou bien une intox. Certaines personnes ont dit que ce prix affiché était de la pub, mais voilà, moi c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il y a eu effectivement, il y a de ça à peu près une année, je pense, ou peut-être un poil plus, un peu moins, je sais plus. Il a mis sa collecte en vente sur eBay et il l'avait affiché à 1 million d'euros. Une personne a cliqué, bon clairement c'était un charlot qui a ensuite expliqué que c'était une fausse manœuvre ou bien je sais pas trop quoi, mais j'ai jamais dit que c'était de la pub ou de l'intox. Peut-être qu'Adol à un moment donné a vraiment essayé de la vendre à ce prix-là. Maintenant pub, je pense pas qu'il en ait franchement besoin. Je pense qu'il est
Ouais,
suffisamment
parce
connu.
que
Mais
plus ou moins tout le monde le connaît. Ouais.
exactement. Maintenant simplement, il est clair que ce prix n'est pas forcément en liaison avec la vente finalisée actuelle. Voilà, ce sont deux choses séparées.
Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bon. On
Voilà.
a vraiment le fin mot de l'histoire. Donc du coup voilà. Donc au niveau des prix, ça par contre, on n'a pas d'idée vraiment de ce que c'est. Mais après, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse non plus, quoi. Ouais, c'est plutôt le fait qu'il ait franchi le pas. Et d'ailleurs, c'est un sujet auquel je pense on pourrait s'intéresser, de savoir si pour certains d'entre nous, on pense déjà à un après collection, ou si on a déjà pensé à vendre ou ce genre de choses. Mais ça viendra plus tard. Eh ben, on va passer à la suite. Donc, comme je le disais, donc le sujet de ce mois-ci, ça va être donc du coup savoir comment on se procure nos objets, nos jeux, nos consoles et tout ce qui s'ensuit, donc entre Internet, les brocantes, les boutiques. Donc du coup, on va commencer par Redrum. Toi, du coup, qu'est-ce que tu privilégies pour faire ta collection?
Je dirais que ça a beaucoup changé depuis que je suis au Québec, parce que comme tu le sais toi aussi, il n'y a pas vraiment de vide-grenier, enfin l'équivalent de ce qu'on a en tout cas en France, brocante vide-grenier. Il en existe, mais c'est pas présenté de la même manière.
Oui, exactement, c'est ça.
C'est donc des ventes de garage qui sont aléatoires dans les rues, devant les maisons des gens. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre sa voiture et puis parcourir les rues le samedi et le dimanche, et puis suivre les pancartes qui annoncent des ventes de garage à tel numéro de telle rue. Donc je dirais que c'est pas très pratique pour ce côté-là. Il existe des grands marchés aux puces aussi, où par contre, là je suis déjà allé. Je sais pas si toi tu es déjà allé.
J'y suis allé, ouais, mais ça, quand j'étais pas encore à Montréal, justement.
Ok.
Parce que ça, il me semble que dans Montréal, il y en a pas. Enfin, j'en ai pas.
Moi, j'en connais qu'un seul qui est donc à côté de chez nous, à Saint-Eustache, qui est vraiment là la représentation de la brocante vide-grenier à la française. C'est-à-dire que c'est énorme. Mais par contre, c'est régulier, donc c'est tous les dimanches et tous les samedis aussi, il me semble. Et on y trouve comme en France un peu de tout. Les deux fois où j'y suis allé, c'était pas très probant. On trouve les classico-classiques, les jeux faciles à trouver et puis les consoles faciles à trouver. J'ai pas vu grand-chose de très probant en fait. Peut-être j'y suis allé trop tard, mais je ne sais pas.
Moi où j'étais allé, c'était entre il me semble que c'était entre Saint-Jérôme et Saint-Adèle, donc
Bah, c'est forte chance que ça soit là.
Et du coup enfin il y avait vraiment un grand enfin ouais donc c'était vraiment un espèce d'entrepôt où il y avait des stands à l'intérieur
Ah,
et
c'était couvert, toi?
ouais moi c'était
Ah
la
non, moi
partie couverte
je te parle de quelque chose d'aérien, là.
Ok, bah là il y en avait un truc dehors et il y en avait un truc dedans et dedans en fait il y avait aussi un mec qui était spécialisé vraiment dans les jeux rétro et
Ok.
qui en avait vraiment toute une carrière mais par contre les prix c'était vraiment c'est vraiment élevé donc du coup
Voilà, donc.
j'avais rien pris dedans mais enfin ouais j'ai donc du coup ouais, j'ai vu quand même dans un vide-grenier un mec qui s'était spécialisé vraiment là-dedans quoi.
Ok. Parce que, bon, quand je vous disais que je voyais des classiques, c'était des classiques, donc on trouvait évidemment, je sais pas, du Super Mario, enfin des choses vraiment. Et puis pas donné en plus, donc c'était pas vraiment pas intéressant. Donc en fait, voilà, par défaut, moi je me suis rabattu sur les petites annonces en ligne. Donc ici, on utilise Kijiji.
Kijiji, ouais.
Un petit peu de Craigslist aussi, j'ai trouvé des choses sur Craigslist. J'avais notamment trouvé mon Amiga 2000 à 20$, alors que
Oh, classe.
sur eBay, il m'aurait coûté 5 ou 600, vu comme il est équipé.
Ok.
Et puis eBay, évidemment, mais eBay, c'est exorbitant depuis quelques
Enfin,
temps.
puis c'est un peu aléatoire aussi. Enfin, parce que moi, il m'arrive encore de faire de bonnes affaires sur eBay.
Voilà.
C'est plutôt aléatoire.
Donc moi je me sers aussi pour les jeux en particulier, je me sers d'un site qui garde là un peu la comment dire un suivi statistique des prix moyens des jeux d'occasion en fait, qui s'appelle Price Charting, mais c'est plutôt pour les États-Unis quand même. Mais il m'arrive d'acheter aux États-Unis, donc soit par des amis qui habitent là-bas, histoire d'éviter les frais de port un peu élevés ou voilà. Mais principalement Internet, ça c'est sûr.
Ok, ça marche. Toi, de ton côté, Mégatron?
Bah moi c'est on va dire 100% internet. Après il y a en fait j'ai commencé je faisais à peu près n'importe où dans le monde. Dès que je trouvais une pièce bah, je me lançais dessus et il n'y avait pas de souci, sauf que bah, ces dernières années je pense que les achats sur le net, bah, c'est pas je pense, c'est même sûr, ils ont explosé. Du coup ma poste enfin merdoie pas mal, donc du coup tout ce qui vient de l'étranger, soit j'ai été un peu reconnu, soit, enfin je sais pas, mais à chaque fois que maintenant je commande aux États-Unis ou au Japon, je reçois un colis sur deux, on va dire,
Ah
avec
ouais,
à
quand
chaque
même.
fois,
Oh.
à chaque fois soit le colis il est paumé, ou dès qu'il, enfin par exemple le dernier c'était des figurines Sonic pour l'anniversaire, qui était sorti aux États-Unis, donc j'avais commandé toute la série en fait complète. Le vendeur super honnête m'envoie un numéro de suivi, pas de souci, sauf que le numéro de suivi s'arrête dès qu'il quitte les États-Unis. Mais arrivé en France, plus aucune nouvelle, plus de son, plus d'image. Donc je me suis renseigné après avec le vendeur, il m'a fait pas de souci, je te renvoie tout un lot, j'ai juste à repayer les frais de port. Là j'avais un numéro de suivi international, donc pas de souci, sauf que bah il est arrivé à la poste, mais j'ai jamais pu trouver mon colis à mon bureau de poste. Bah ça m'est arrivé plusieurs fois, donc j'ai un
Aïe
peu
aïe aïe
lâché.
aïe aïe. Oh là là.
J'ai un peu lâché l'affaire, donc du coup, et puis maintenant, je me rabats bah, soit sur les ventes via forum, ou sinon, bah, comme toi, pareil sur eBay quand il y a les bonnes occasions qui se présentent, mais clairement, il y en a plus trop. Même si je parcours quasiment la totalité des différents eBay, je trouve encore des bonnes occasions, mais ça se fait de moins, enfin c'est moins fréquent. Du coup, je me rattrape sur les forums. Où le bon côté, bah, c'est qu'on arrive à trouver des prix raisonnables, où ça me convient encore. Par contre, les pièces que je recherche se font beaucoup plus rares, par exemple. Donc bon, c'est pas, ça me dérange pas plus que ça, mais du coup, je mets plus de temps à récupérer les pièces que j'aimerais bien avoir. Donc c'est un petit, je prends mon mal en patience, mais voilà. C'est, sinon, c'est tout. Brocante chez moi, il y en a, j'en fais. Très rarement, mais quand j'en fais, il y a quasiment rien du tout. Et la dernière que j'ai faite, par exemple, j'étais debout très tôt, je suis arrivé très tôt, il était 8 heures du matin, et bah, il y avait déjà un mec qui courait sur tous les stands en clamant haut et fort, est-ce que
Voilà.
vous avez des jeux vidéo à vendre? Il avait déjà 4 sacs, donc bon, ça m'a un peu cassé le moral et j'ai passé à autre chose, quoi.
Bah, tu m'étonnes, ouais, ouais, y a de quoi être démoralisé avec tout ça.
Ouais. Donc bah maintenant je traîne sur Limited, 2, 3 autres forums et puis j'arrive à trouver des petites pièces ici et là et je suis très content comme ça.
Ok, ça marche. Bon, on va passer un message à toutes les postes de France. Donc, rendez tous les objets que vous avez volés à Mégatron parce que c'est vraiment pas cool. Et non, mais après, plus sérieusement, moi aussi, ça m'est arrivé une fois. Ouais, le pire qui m'est arrivé, c'est que je reçois l'avis de passage dans ma boîte aux lettres. Je vais à la poste, puis y a pas le colis.
Ouais, bah j'ai eu ça
C'est
aussi.
moi, je comprends pas. Non, c'est un truc, ça,
Là,
c'est.
c'est du vol caractérisé, hein, c'est sûr.
Bah ouais, parce que t'as l'avis de passage dans ta boîte aux lettres, quoi.
Voilà, voilà.
Tu peux rien faire de plus, quoi.
Ah, tiens.
Là, ça peut pas être de la faute du vendeur, quoi, parce que t'as l'avis de passage, quoi.
Ouais.
Il va au bureau de poste, puis après il te trouve toutes les excuses. Ouais, mais il est bloqué au machin de passage, je sais pas quoi, là.
Ouais.
Non, mais la poste en France, franchement, ça confirme ce que je pense, quoi. C'est de pire en pire. Enfin,
Et c'est de plus en plus cher.
Ouais, puis
Possible.
bah du coup peut-être que Hudson va pouvoir nous confirmer ça. Ah mais non, il est pas en France, lui, il est en Suisse, donc c'est peut-être différent.
Ouf.
Ouais. Comment tu te procures tes jeux?
Alors moi j'aime bien l'idée des magasins physiques. Hein. C'est quelque chose auquel je
Ok.
suis assez attaché parce que
Justement, je voulais aborder le sujet. Ouais.
parce que voilà parce que je les fréquente depuis très très longtemps. J'aime bien l'idée. Voilà, j'ai des potes qui en ont, donc c'est clair que ça aide. J'aime bien l'idée de rentrer dans un magasin où tu connais les vendeurs, où ils sont sympas, ils sont compétents éventuellement. Et puis tout d'un coup, tu tombes sur une pièce sympa, tu l'as en main, tu la payes, tu pars avec. Voilà, ça c'est quelque chose auquel je suis assez attaché. D'ailleurs, il y a eu un reportage là sur GamesWave, je pense que plusieurs personnes l'ont vu,
Ah
qui était quand même, qui était vraiment excellent. Puis c'est clair que le mec, t'as quand même envie de l'aider.
bonne idée d'aborder ça, ouais, tout à fait.
Voilà. Maintenant, il est clair qu'avec le temps, quand tu commences à taper dans des pièces chères, ça devient de moins en moins possible. Donc moi, je prends mon exemple à moi, c'est-à-dire le Japon. Il est clair, enfin voilà, pour donner un exemple concret, là j'ai un colis qui part demain. Dedans, il y a un jeu que j'ai payé au Japon, quelque chose comme 450 euros. Donc c'est déjà une très forte somme pour un jeu. Ce même jeu, tu le prends dans l'état, tu le mets dans un shop à Paris, il prend 200 euros d'un coup.
Ouais, facile, ouais.
Donc pourquoi j'irais payer 650 euros un jeu que je peux avoir moi-même à 450 et qui est livré chez moi en 3 jours. C'est ça la question. C'est ça qui fait qu'à la longue, malheureusement, quand tu commences à taper dans des pièces un peu particulières, tu peux plus trop passer par les shops, c'est pas possible. Voilà, c'est triste, mais à un moment donné, tu te retrouves un petit peu obligé à prendre les choses toi-même pour essayer un petit peu de limiter quand même les frais, quoi.
Ouais, c'est vrai, je suis complètement d'accord, mais
Voilà,
après ça c'est
donc.
quelque chose je pense qu'on trouve enfin quel que soit le domaine, et puis depuis que Internet a vraiment explosé, puis les achats sur Internet également, quoi.
Exactement, ce qui fait que moi, voilà, ça m'arrive encore parfois de prendre un petit truc comme ça dans un shop parce que je tombe dessus puis que je trouve sympa, mais dès que ça commence un peu à douiller, je prends plus en shop quoi, je commande tout directement au Japon. C'est des professionnels de confiance en qui, enfin avec qui je travaille depuis très très longtemps. Je sais que quand je demande mon jeu et que je demande qu'il soit Mint, t'as même pas besoin de te poser la question. Ce qui est livré est Mint. Et puis, en tout cas, en Suisse, on a la chance de pas avoir de problème avec la poste. Moi, en 10 ou 15 ans de commande, j'ai jamais eu un colis paumé ou volé ou abîmé, jamais.
Ok, bah ouais, bah c'est donc c'est vraiment ouais un truc, je pense, ouais, propre à la France, quoi. Parce que vraiment, moi, pareil, depuis que je suis au Québec, j'ai commandé vraiment plein de trucs, des trucs plus ou moins gros en plus, plus ou moins précieux entre guillemets, quoi. Enfin, plus avec plus ou moins de valeur, et c'est toujours arrivé, quoi. J'ai jamais
Pareil pour
rien
moi.
qui s'est perdu, quoi.
Ouais.
Et
Mais j'ai même pas abordé le sujet des cartons abîmés, hein, parce que là, c'est même pas la peine. Il y en a
le
beaucoup.
sujet des quoi?
Des cartons abîmés.
Ouais.
Ah ouais, bah ouais,
Ça,
ça.
j'en reçois plein, quoi.
Ouais, et puis on a vu aussi, donc, du coup, sur le forum Limited aussi, quelqu'un qui avait reçu, je crois que c'était une PlayStation ou ah non, une enseigne PlayStation qui est arrivée avec un coin complètement défoncé, quoi. C'était vraiment scandaleux, quoi.
Oh putain, à la poste, t'as les gens qui manipulent les colis quand ça
Ouais.
monte dans l'avion aussi. Enfin, il y a tellement de personnes dans la chaîne de transport que c'est difficile de pointer sur quelqu'un, mais une chose est sûre, c'est que la plupart des gens font pas attention, quoi.
Et sinon, Megatron, toi, ça t'arrive d'aller dans des boutiques spécialisées, ou pas du tout?
Ouais, en fait, je pense que j'en suis arrivé au même stade que Hudson, c'est-à-dire que j'ai des connaissances dans les magasins, donc ça fait plaisir d'aller les voir, de taper la discute avec eux, de prendre des nouvelles, de voir un peu les pièces qu'ils ont. Mais clairement, enfin, c'est vraiment très très rare aujourd'hui que je leur prenne une pièce parce que tous les jeux, on va dire un peu lambda, soit ils sont déjà dans ma collection, soit je les recherche pas. Et là encore, les prix, bon, ça va, mais dès que tu cherches une pièce rare qu'ils ont en magasin, ouais, sur Paris, il y a des jeux où c'est carrément le double du prix d'Internet. Donc, même si je les connais bien, même si je les aime bien, ça me fait super mal au cœur de lâcher le double du prix, quoi. Même si, je sais qu'ils arrivent plutôt bien à s'en sortir. Sur République, ils sont pas trop trop en galère. Parce que voilà, ils marchent tous ensemble. Mais clairement, ouais, Street of Rage 3 sur Mega Drive à plus de 150 euros, non, quoi.
Ouais, non, là c'est un peu de l'abus, quoi. Mais après, voici, ouais, juste ce que je voulais dire, ouais, pour en revenir aussi au reportage, donc qui a été fait par Gamekult sur Gameswave, comme le disait Hudson Neck. Donc déjà, le reportage est une super bonne idée, financée par les abonnements premium de Gamekult. Et du coup, le reportage est très bon. On vous mettra le lien également, parce que c'est vraiment une super bonne idée. En gros, il passe 24 heures, enfin pas 24 heures, mais vraiment toute une journée, avec le vendeur de Gameswave, donc qui ouvre de l'ouverture du magasin à la fermeture. Et c'est vraiment intéressant, parce que justement, il donne son point de vue sur comment ça se passe, sur comment il vit avec son magasin malgré la fermeture de tous les autres, et dont la fermeture de Game, et plus récemment de Virgin aussi, donc qui était pas spécialement spécialisé dans le jeu vidéo, mais qui avait une grosse partie jeu vidéo quand même. Mais quand même, moi, il y a un truc qui m'a fait bondir, à un moment. C'est quand j'ai vu quand ils vendent trois coffrets Square Millennium Collection à un consommateur, et que les trois, il les vend 259 euros, alors que dans le lot, il y a les deux Saga Frontier qui valent 20 euros pièce, quoi. Donc, bon, ça m'a fait un peu bondir, mais après, c'est vrai que c'est comme vous le disiez, c'est des gens, quand on les voit, enfin, on voit que c'est des passionnés. Ils sont dans leur magasin pas pour vivre, parce qu'en plus, enfin, je pense que si vous voulez gagner de l'argent, ils feraient autre chose, quoi. Mais vraiment, parce qu'ils sont passionnés par ce milieu-là, par ces jeux vidéo, et que du coup, c'est vrai que ça donne envie de les aider, ça donne envie de leur acheter des trucs pour après se dire qu'on les aide à conserver leur magasin et à vivre de leur passion. Donc, du coup, ouais, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, quoi.
Bon, même si après c'est quand même normal que tu puisses pas retrouver les mêmes prix en magasin que sur
Oui,
l'Onet et autres, hein. Ils ont
tout
quand même des frais, des salaires, il y a quand même
à fait. Oui,
vendre à payer,
exactement.
etc. Donc après c'est pas pareil. Maintenant, je pense que ce que certains magasins, pour pas dire beaucoup, ont pas encore compris, c'est que les gars, ils veulent marger à mort sur tout ce qu'ils vendent. Il ferait mieux d'essayer de marger un tout petit peu moins et de vendre plus. Finalement, à l'arrivée, peut-être qu'il gagnerait plus.
Ah oui,
Parce que tu
c'est
peux,
pas faux.
voilà, c'est ça. Parce qu'un jeu que tu peux avoir à 100 euros, devoir en sortir 200 ou plus pour l'avoir, à un moment donné, tu dis, ouais, non, quand même pas. Après, si toi, le jeu, tu peux l'avoir à 100 euros et puis tu dis, bon, bah, finalement, il est devant moi, j'ai pas à le chercher, j'ai pas à le commander, j'ai pas à m'emmerder avec les douanes. Et puis il te revient à 130 ou je sais pas. Là ouais, peut-être que tu peux te poser la question, mais payer 2 fois et demi le prix, non, tu te la poses même plus.
Mmh.
C'est ça.
Oui, c'est ça,
Ouais.
exactement.
Surtout que le rétro dans les magasins, c'est direct dans la caisse. Même si ils remboursent le prix auquel ils ont payé, bah, comme dit Hudson, quoi, ils font une sacrée marge dessus. C'est pas comme les jeux la génération actuelle où ils sont 3-4 euros sur chaque unité vendue. Mais encore sur République, je pense qu'ils sont un petit peu plus. Mais clairement, le rétro gaming, enfin voilà, t'as juste à tenir à jour ton stock et c'est tout, quoi. C'est vraiment, tu rachètes aux particuliers pour vendre aux particuliers. Donc t'as pas un prix imposé
Oui, c'est
par
ça,
la
t'as pas
maison de
de,
distribution, quoi.
oui, voilà, c'est ça, t'as pas de distributeur, t'as pas de quelqu'un qui va garder tes trucs en stock avant de te les livrer, enfin,
Voilà.
c'est, t'auras pas de messagerie, t'auras rien du tout, quoi, donc,
Mais clairement, hein, si effectivement il mettait enfin un prix, un jeu vendu 100 euros et il te le refourgue à 120, moi ça me dérangerait pas, au contraire, parce que là, comme dit Hudson, bah tu l'as tout de suite dans les mains, tu peux voir l'état, si te convient ou pas, t'as pas la douane, un risque de douane, et t'as pas l'attente. Donc moi
Oui,
clairement,
c'est
ça me
ça.
dérangerait pas de mettre 10 ou 20% du prix. Dans un jeu, s'il est dans une boutique physique, mais là sur République, c'est pas ça, quoi. Ça fait, c'est clairement quasiment du double. Donc moi, j'ai aucun intérêt à les prendre chez eux, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi, j'y suis allé. Bon, la dernière fois que j'y suis allé, c'était donc juste avant de partir en 2010, quoi. Et c'est vrai que ben, non, il y a juste pas moyen de faire une bonne affaire, quoi, parce que ouais, tous les trucs tu les retrouves sur le net vraiment moins cher, quoi. J'ai rien vu qui à part peut-être il y avait une Mega Drive ou une Mega Drive 2 en version japonaise qui était à 60 euros, donc il y avait plutôt un prix honnête, même si justement s'ils la mettent à ce prix-là, c'est qu'ils ont dû la toucher beaucoup beaucoup moins cher. Mais enfin du coup ça reste quand même honnête, mais c'est vrai qu'à part ça. Enfin, tous les jeux, c'est ouais, comme tu le disais, Megatron, c'est soit on les a déjà, soit du coup on peut les, on les, ou on les recherche pas, ou on peut les avoir moins cher, quoi. Et du coup, sinon, Redrum, de ton côté, le magasin spécialisé, c'est les trucs que tu fréquentes un peu ici au Québec?
Pas vraiment, puisque j'en ai pas vraiment trouvé dans mon secteur ni croisé en fait. Tu m'as parlé d'un qui était dans Montréal,
Ouais,
mais
ouais.
je peux quasiment garantir qu'à Laval, en tout cas, il n'y en a pas.
Ok.
J'ai été fréquenter ce qu'on appelle des pawn shops ici là. C'est comme les ceux
Des.
les cash converters et tout ça en
Ouais.
France. Eux, évidemment, ils pratiquent des prix totalement dingue. J'ai un magasin pas loin de chez moi qui a en stock une trentaine de Super NES et de NES et etc. Il demande à peu près 100 $ pour une Super NES.
Ah ouais, non, mais
Donc
ça c'est pas possible.
voilà. Donc j'ai laissé tomber tout de suite. Ils ont plein de jeux avec. Ils ont beaucoup. Ils ont vraiment un bon stock, hein, mais les prix sont juste pas abordables du tout. Et puis pour revenir à ce que vous disiez avant, moi, ayant été petit pincement au cœur, assistant manager dans un game pendant 1 an. Je peux vous confirmer que 80 à 85% de ce que rapporte le magasin est fait par l'occasion. Et
Ouais, bah ça forcément, ouais.
les prix, on fait quasiment aucune marge sur le neuf, que ce soit, alors sur les consoles, la marge elle est ridicule, c'est moins de 2%. Sur le neuf, les jeux neufs, c'est très faible aussi. L'occasion, ça peut monter du simple au quadruple, je dirais.
Oh, quadruple carrément.
Ouais, j'ai souvenir qu'on reprenait des PS2 à 20 euros et puis qu'on les revendait 80 derrière. Donc c'était vraiment, c'était et c'est toujours, je suppose, pour la plupart des magasins d'occasion, que ce soit du rétro gaming ou pas, le nerf de la guerre de pouvoir marger à mort comme ça sur ce qui est en occasion. Et puis je pense pour les prix exorbitants pratiqués à une époque, j'ai traîné aussi dans les magasins du boulevard Voltaire. Je suppose que c'est cela dont tu
Ouais,
parles,
c'est
Mégatron.
ça, ouais.
Ah ouais, tout à fait. Ouais.
Je suppose qu'en fait partent sur le fait que il est possible que quelqu'un l'achète au prix fort. Donc ils prennent ce risque pendant quelques semaines de le laisser à prix fort. Et puis éventuellement, c'est parce que nous on pratiquait ce genre de choses aussi, si tu le vends pas, ben tu le baisses progressivement, t'as une grille établie à l'avance, tu baisses progressivement le prix du jeu jusqu'à ce que évidemment tu t'en sépares, mais tu joues le risque que quelqu'un va te l'acheter au prix fort pour faire une marge extrême en fait.
Ouais, c'est un peu
Je
dommage par contre.
C'est très dommage parce que malheureusement, malgré que ces magasins-là, y compris Game ou le Game dont je m'occupais, je peux vous garantir que tous les vendeurs sont vraiment des passionnés, hein. C'est pas des gens qui sont là juste pour vendre ou avoir un travail. C'est le business qui prime malheureusement. Et voilà, ça finit souvent comme ça. Et c'était déjà le cas à l'époque, ça doit toujours être le cas avec les jeux génération actuelle, mais là, avec la vague du rétro gaming, forcément. Ça augmente les prix de manière
Bah,
non justifiée.
sur République, ils ont des belles vitrines, hein, mais enfin moi,
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, quoi.
à chaque fois que j'y vais, t'as quoi? T'as 10-12 personnes qui sont au rayon rétro et qui font que regarder, quoi, en disant ah ouais, ça c'est sympa, ouais, ça je l'avais, machin, mais c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas le clic de tiens, je vais dépenser pour me payer, quoi. Parce que
Ouais.
clairement, les prix les freinent, quoi.
Ouais,
Donc, voilà.
c'est pour ça que je disais, ils essayent de tenter le quitte ou double
Ouais.
avec quelqu'un qui aura un peu d'argent, qui passe là par hasard, qui achète juste un jeu qui l'a marqué dans son adolescence ou son enfance, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi.
Ouais.
Non, mais c'est vrai,
Donc.
c'est ça. Quand j'allais à
République,
moi, c'est vrai que c'était juste pour regarder, et que c'est vrai que déjà ça me donnait des idées pour mettre, enfin pour exposer ma collection, voir justement. Comment je pourrais m'y prendre et tout ça, mais après, voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter?
Non, écoute, moi, il y a juste un truc que j'avais envie de dire, c'est qu'à un moment donné, dans la mesure où ces magasins, ils sont quand même là depuis des années, il faut quand même bien que les gens, ils leur achètent du matos. Donc, voilà, c'est exactement comme quand on voit sur les forums des gens qui critiquent les prix de certaines pièces type sur eBay à des prix de dingue. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que tout le monde a l'air de dire, mais c'est des prix de dingue, et pourtant ça part. Donc, il faut bien quand même que quelqu'un les prenne.
Oui,
C'est pas
non, mais c'est
possible
exactement ça.
autrement. Donc voilà. Donc après, c'est un petit peu aussi le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tout le monde critique, enfin tout le monde critique, passablement de gens critiquent, et pourtant ça part quand même. C'est ça qui est dingue, et c'est ça aussi qui fait que les prix montent, parce que chaque fois ça part quand même.
Oui, c'est ça. C'est après comme justement comme le disait Coluche, suffirait
Exactement.
que les gens n'achètent pas pour que ça se vende pas, quoi. Mais c'est vrai que
Ouais.
tant qu'il y aura des gens pour acheter,
Ouais.
ça partira.
C'est pour ça que je vous disais qu'ils tentaient le quitte au double, hein, et ils essayent au prix fort, et puis si ça part, ça part, et a priori ça part, donc pourquoi s'en priver? Vu
Ouais,
que le
c'est ça.
business prime et que la survie prime, puisque ces petits magasins-là doivent quand même faire peu de profit, je pense, mais ils doivent en faire une grosse partie sur les jeux médians, je dirais, et sur l'occasion standard, mais bon, sur le rétro.
Ouais.
Mais malheureusement, un prix cher qui part en magasin, ça fait pas beaucoup de vagues. Par contre, un jeu cher qui part très cher sur le net, là, c'est complètement l'inverse et ça fait effet boule de neige. Et du coup, tu te retrouves avec des petits jeux tout merdis qui valent pas grand-chose et du jour au lendemain, t'as le prix qui double et tu sais pas pourquoi, mais parce que t'en as un seul qui l'a vendu, comme tu dis si bien, qui tout double et là, ça a marché et du coup, ça fait boule de neige et ça, je trouve ça vraiment très très dommage.
C'est très dommage. C'est pour ça que un des meilleurs moyens pour acheter des jeux rétro, je pense, reste quand même entre collectionneurs sur les forums.
Ouais.
Parce que c'est là où les gens ont conscience de la valeur sentimentale et de la valeur non pécuniaire des choses et peuvent faire des prix, comment dire, arrangeants, entre guillemets, et puis pas abuser, quoi.
Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais.
Ouais, mais le truc quand même, c'est que après, il faut pas se leurrer, hein. Sur les forums, il y a beaucoup de choses que tu trouveras jamais.
Ah, mais c'est clair, parce
Et
que les gens
si
les
tu
garderont.
commences, voilà, si tu commences à te dire, tiens, j'aimerais trouver ça, j'aimerais trouver ça. À moins que vraiment tu cherches des choses assez classiques, assez courantes, on va dire, mais si tu commences à vouloir taper dans des pièces très très spéciales, tu vas jamais les trouver. Je veux dire, ouf, tu peux les chercher des lustres, quoi. Donc après, à un moment donné, tu dis, bon, écoute, moi j'ai quand même envie de vraiment l'avoir, et puis tu le commandes, quoi.
Ouais, je suis d'accord, hein. Il y a des
Ouais,
pièces
c'est
que tu
clair.
trouveras jamais sur le forum.
Bah ouais, tu trouveras jamais.
Et bon, ça, c'est vraiment des pièces bien spécifiques où bah, tu sais que voilà, si t'en as un, faut sauter sur l'occasion. Mais généralement, maintenant, les pièces bien rares, tu les retrouves. Enfin, ça passe même plus sur le biais du forum, quoi. Enfin, d'un forum, ça part direct soit sur eBay, soit dans des boutiques vraiment spécialisées, où, par exemple au Japon ou autre. Mais en France, enfin, je sais pas, hein, il y a vraiment des pièces rares qui clairement terminent direct sur eBay. Et puis là, t'as vraiment ceux qui veulent la pièce qui vont se tirer la bourre. Mais voilà, t'es jamais à l'abri d'avoir un petit con qui va te faire chier surenchérir. Et enfin voilà, c'est vraiment chiant. Quand on prend des pièces bien rares, moi je galère assez souvent et généralement c'est des connaissances à droite à gauche qui me disent tiens là il y en a un, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Et ça majoritairement comme ça se passe comme ça quoi.
Sans compter, je sais pas si vous avez déjà eu, certainement, je pense, vu ce genre de phénomène, les gens qui débarquent sur un forum avec un stock pas croyable juste pour vendre à des prix complètement hallucinants aussi et qui cassent un peu l'ambiance, entre guillemets. Moi, ça m'est arrivé à deux ou trois reprises de voir ça.
C'est sûr, on en a eu sur Limited Edition et chaque fois il me semblait qu'il faisait pas long feu quoi. Justement quand il venait clairement pour vendre,
Bah,
c'est
disons que ce qui se passe, c'est que vu que maintenant tu peux plus t'inscrire pour vendre, tu es obligé de passer par une période, par X MP qui tiennent un petit peu la route. Ensuite, il faut quand même avouer qu'on a la chance, certains diront le contraire, mais moi je trouve qu'on a la chance, c'est que dès que les gars ils commencent un petit peu à les casser, on s'en sépare assez vite, hein, et ça je trouve que finalement c'est pas plus mal. Hein.
C'est très bien, ouais, c'est très très bien.
Finalement, ouais, exactement, finalement on limite ce principe. D'entrée.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, je vais juste parler de mon côté pour expliquer aussi un peu comment je fais, mais c'est un peu en fait un résumé de tout ce que vous avez dit, puisque je fonctionne exactement comme ça. Surtout que donc quoi, ouais, comme j'en parlais à Redrum la semaine dernière, des magasins spécialisés ici au Québec, ça va être très dur à trouver. Ou ça va être dans les petites villes, ou ça va être des prix exorbitants. Pour donner un exemple, ici à Montréal, il y a une chaîne de magasins qui s'appelle Game Buzz et qui font de tout, dont du rétro. Mais les prix, c'est juste, enfin moi, j'ai vraiment du mal à comprendre que ça puisse partir même à des tarifs comme ça, quoi. Et surtout que ça doit pas être le cas puisque les jeux, je les vois encore, enfin à chaque fois que je vais dedans. Et là, j'ai l'exemple de Breath of Fire 3 qui est affiché à 200 $, donc l'édition PlayStation. Et d'ailleurs, en plus, il me semble même pas que c'est un Black Label. Il me semble que c'est un Greatest Hits. Donc c'est juste, non, je comprends pas comment ils peuvent espérer pouvoir vendre à des prix comme ça, quoi. Mais après, par contre, voilà, ça va être des magasins qui auront du stock, qui auront des pièces, enfin quelques pièces assez rares, mais vraiment pas après les trucs les plus rares qu'on pourrait rechercher quoi. Mais voilà, donc du coup pour trouver des trucs dans des magasins spécialisés ici au Canada, ça va être assez tendu. Donc du coup moi après c'est vrai que je me rabats sur internet, ouais vraiment que sur internet en fait quoi. Et il m'arrive de faire quelques bonnes affaires dans des pawn shops comme disait Redrum, mais c'est vraiment très très rare quoi. Je sais plus si c'était la première ou la deuxième émission, je disais que j'avais trouvé une Xbox dans un magasin comme ça et du coup, mais c'est vraiment ouais la seule fois. Bah la Super NES dans une vente de garage, pareil, c'était plus ou moins, enfin une coïncidence, ouais, parce que donc ouais, les ventes de garage, c'est vraiment au gré des balades le week-end, tu vas trouver une affiche sur un mur qui va dire ah ouais, ce jour-là vente de garage de telle heure à telle heure au coin de la rue machin. Mais vraiment, il y a aucun site qui va regrouper les ventes de garage comme ça, plus ou moins non officielles, qui sont faits quartier par quartier, quoi. Et du coup, c'est un peu dommage, mais par contre, je pense qu'il y a moyen de faire quelques bonnes affaires si on trouve des gens justement qui débarrassent vraiment leur grenier, leur garage ou quoi, ou caisse, quoi. Et du coup, ça peut arriver de faire quelques bonnes affaires. Mais après ouais, moi ça va être surtout internet quoi, donc ou eBay ou Yahoo Auction Japan avec un intermédiaire, mais ouais vraiment ça va être majoritairement ça, surtout ouais, quand on dès qu'on se commence à se spécialiser dans quelque chose et qu'on veut des pièces vraiment très précises et dans un état très précis aussi, ça va être dur, ouais, ça va être ouais vraiment de la chance et du hasard de les trouver vraiment sans avoir à passer une commande sur le net, quoi. Donc du coup, je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet?
Non, c'est bon.
Non, non, ouais, on a bien fait le tour.
Ouais, il me semble qu'on a bien
Ouais,
fait le
c'est
tour. On a
bon. Ouais, c'est bon.
vraiment parlé des magasins et tout ça, donc c'est et ça c'était vraiment c'est ouais ça je trouve c'est vraiment intéressant. Je vais juste ouais conclure avec ça que du coup ouais, donc malheureusement bah ouais les magasins spécialisés sont en voie de disparition, donc que ce soit les magasins rétro ou même les magasins spécialisés, donc comme la chaîne Game qui a disparu l'année dernière, et Virgin aussi, donc là qui était vraiment le multimédia dans son ensemble, enfin plus les livres et tout ça, comme ça c'était c'est vraiment un coup dur pour ça, plus la Fnac qui se porte pas spécialement super bien,
Bah, pas du tout.
ouais, enfin c'est vraiment à la fois intéressant et assez alarmant ce qui se passe. Et du coup, bah, on est peut-être en cause aussi à acheter tous majoritairement sur Internet, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est l'offre de la, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est le prix qu'on va rechercher. Donc du coup, c'est vrai que pas que du coup on est plus témoin de ça qu'autre chose, et du coup ben, pour l'instant on va juste attendre pour voir ce qui va se passer, mais on espère que ouais tout se passera pas dans le dématérialisé, que on aura toujours quand même quelques magasins spécialisés avec tenus par des passionnés qui pourront toujours ou à défaut de vendre à des prix raisonnables bien exposer leurs pièces.
Bon, après, il n'y a pas non plus forcément que le prix. Je veux dire, si on parle état, il faut quand même
Oui, il y a
avouer que
l'État
même,
aussi. Oui.
voilà, je veux dire, même si on parle simplement de rétro Jap, il est très très rare de trouver en magasin un jeu qui correspond à du A ou du Mint Jap sur place. Parce que quand même, moi, j'ai l'impression que les shops, bien bien souvent, pour essayer de marger, même quand ils commandent eux-mêmes au Japon, ils commandent des jeux qui sont de l'excellent état pour nous Européens, mais qui, quand t'as l'habitude vraiment du Ajap, tu te rends bien compte que c'est des jeux qui ont dû être vendus sur place à bas prix, j'ai envie de dire. Il faut savoir qu'au Japon, l'état est super important, et dès que le jeu est un tout petit peu corné, un tout petit peu abîmé, que la spine est un tout petit peu, bref, le prix dégringole à une vitesse monstre. Hein.
Ouais, ça c'est
Ouais.
vrai que c'est fou ça.
Donc après, il n'y a pas que le prix, il y a aussi simplement le fait que l'état est pas comparable.
Mais
Puis
après oui, c'est vrai, ça c'est ouais, juste pour terminer, c'est vrai que ça après c'est ce qu'on disait la dernière fois que après ouais, c'est vrai que moi je m'attache pas spécialement à l'état, donc du coup c'est vrai que je vais pas prendre ça spécialement en ligne de compte, quoi. Mais vas-y, Redra, moi.
bah, c'est-à-dire que dans la micro, il y a une autre dimension qui existe encore pour les consoles, bien sûr, mais moi, je pense, dites-moi si je me trompe, dans le micro, on a eu toute une génération de jeux, notamment et surtout dans les années 90, début 90, fin 80 un peu, avec tout un tas de goodies accompagnant la big box en carton de jeux, surtout sur PC, où on avait la carte du monde, vraiment. Enfin, je pense aux Ultima où il y avait la carte du monde imprimée sur tissu, les cartes de la taromancienne qu'on rencontre au début du jeu qui étaient livrées avec le jeu. Enfin, c'était vraiment très complet. Il y avait des figurines parfois, et ça, c'était pas des éditions spéciales comme on voit aujourd'hui aux collectors qui coûtent beaucoup plus cher que les autres. C'était les éditions normales. Et trouver des jeux micro complets comme ça, c'est très dur, parce que la plupart du temps, évidemment, les disquettes se dégradent. C'est pas comme une cartouche, ça tient pas le coup dans le temps. Les gens séparaient ça. Bon, je sais qu'on trouve de la cartouche loose aussi, mais c'est vraiment beaucoup plus difficile de trouver des boîtes complètes qui n'ont pas été écrasées aussi, parce que ce sont souvent écrasées parce qu'il n'y avait pas de support de structure à l'intérieur. Et puis, plus les jeux sont vieux, et plus c'est dur de les trouver fonctionnels. Donc au final, ce qu'on achète, c'est l'objet sans pouvoir jouer. Parce que la disquette fonctionne pas ou la cassette fonctionne pas. Là, dans les 20 cassettes que j'ai reçues récemment, il y en a 15 qui fonctionnent pas.
Ah
Mais
ouais, d'accord.
j'ai l'objet, j'ai la boîte originale, j'ai la cassette originale en bon état, pas toujours en très bon état. Souvent, c'est mangé par les souris et tout ça.
Ah ouais,
Mais
quand même.
ouais, parce que j'ai souvent eu des boîtes comme ça, carton, qui restaient dans des greniers trop longtemps, on va dire. Mais c'est ça qui est le plus dur dans la micro, c'est d'avoir la complète, la totale, en fait.
Je suis bien d'accord. J'ai un petit exemple justement qui date de 2 semaines. J'ai récupéré un exemplaire d'un épisode de Command and Conquer, premier du nom. Et en fait, quand tu achetais le jeu, tu avais un couteau suisse carrément offert à l'intérieur avec le logo de Command and Conquer imprimé dessus. C'est le truc aujourd'hui qui serait impensable, quoi. T'achètes un jeu PC, t'as un couteau avec, quoi. C'est
Déjà pour la
complètement
sécurité.
irréel, quoi. C'est tiens, fais la guerre tout seul avec ton couteau. Et du coup, bah j'ai pas ce fameux couteau en fait. Et en faisant 2-3 recherches sur Internet, impossible de trouver le couteau en vente, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est dommage parce que comme tu dis, t'avais plein de petits goodies super intéressants dans les jeux PC
Allez.
qui était vendu au prix normal, comme si tu achetais la version normale, quoi. Il n'y avait pas d'édition, ce phénomène d'édition de collector. Et pour mettre la main dessus, en plus en bon état, non, c'est vraiment
Très.
beaucoup plus difficile que la partie console, je trouve. Après, c'est pas du mine. Donc, moi, je suis pas non plus un féru du mine comme Hudson, mais sur PC, c'est vraiment difficile de trouver un jeu en super bon état. Surtout quand tu vas taper dans des jeux cultes, genre un Doom 2 ou un Rise of the Triad sur PC. Enfin, c'est vraiment la croix et la bannière pour en
Ah,
choper.
c'est clair. Surtout que c'était des jeux assez communs à l'époque, qui sont beaucoup vendus, donc je pense que ça a été vraiment manipulé, mal manipulé, puis pas pris en compte.
C'est des piliers du jeu vidéo et tu galères énormément plus que si tu devais trouver un Mario 1 sur NES, où là t'en es à la pelle en très bonne condition, voire tu peux encore en trouver du mint. Mais un Doom 1 ou un Doom 2, enfin ce genre de jeu, quoi, quand tu en français, en mint, enfin moi j'en ai jamais vu, quoi.
Alors,
Après, avec toutes les rééditions qu'il y a eu, après avec le
Oui.
format CD, après avec la
Ouais, c'est clair.
DVD, tout
Ouais.
ça, avec la, après avec les boîtiers DVD. Enfin, c'est
Ah,
ouais,
je vous laisse imaginer des jeux de
le
Commodore
PC,
64.
ouais,
Pardon.
mais le PC, enfin toute la partie micro PC, c'est vrai que c'est un truc à part entière. D'ailleurs, auquel on dédiera peut-être une émission parce que c'est, je trouve, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment beaucoup à dire dessus, quoi.
Non, et puis surtout, je me demande aussi si au niveau PC, s'il y a autant ce phénomène collection de garder les choses en super bêta, de faire attention, etc. Je me demande si c'est pas un peu plus un produit de consommation encore que le jeu vidéo sur console de salon.
Mais je te
Je sais pas.
dirais, que je suis d'accord avec toi.
Alors peut-être de moins en moins,
Je
mais
dois être un des
peut-être.
seuls fous furieux à avoir gardé. Mes parents comprennent toujours pas pourquoi je squatte une partie de leur maison d'ailleurs. J'ai toutes les big box que j'ai achetées depuis le début. Je les ai toutes chez moi en fait. J'ai tout gardé, tous les manuels parce que je sais pas. Quand on était ado ou plus jeune, c'était quand même une certaine somme d'acheter un jeu vidéo, donc je faisais attention à ce que j'ai acheté, et puis voilà, j'ai vraiment tout conservé. Bon, hormis le fameux cambriolage dont je parlerai peut-être une fois, mais où là j'ai des pièces ultra rares qui sont parties, c'est un peu décevant, mais c'est comme ça. J'ai conservé le plus possible, notamment, il y avait tellement, les boîtes étaient tellement belles, j'ai la boîte d'Another World, par exemple, d'original. Non seulement l'illustration est magnifique parce que c'est Shai qui l'a faite, bien sûr, mais en plus elle est en relief, donc. On peut pas en dire autant des boîtes de jeux de PS3 actuelles, par exemple,
Non, c'est clair.
Ou même des boîtes de Super NES, hein. Je pense pas qu'il y en ait en
Ou de Super NES, c'est vrai.
relief. Enfin, NES, Super NES, je pense pas qu'il y ait des boîtes en relief, quoi. Mais ouais, enfin, après, c'est. Ouais, je pense qu'on fera vraiment une émission dédiée au PC, quoi. Parce que c'est. Ouais, y a
Ouais,
vraiment
c'est un
beaucoup à
autre
dire
univers.
dessus.
C'est pas
Ouais, c'est. Puis ouais,
une
puis
console.
exactement, ouais, c'est un autre univers, quoi. C'est une autre mentalité aussi. C'est le premier des supports à être passé au tout dématérialisé avec Steam, quoi.
Ouais.
Enfin, notamment, quoi, parce qu'après, justement, ce que les gens savent peut-être pas forcément, c'est que à part Steam, il y a aussi plein d'autres plateformes qui existent, quoi, pour jouer en dématérialisé, que ce soit en jeu courant ou en jeu rétro, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Enfin, du coup, ouais, je pense on en parlera. Puis ouais, ça ferait une émission à part entière parce que sinon celle-là, elle risque de durer 3 heures et demie. Et du coup, ça obligerait certaines personnes à les écouter en 4 ou 5 fois. Mais je ne
En
lis plus.
plus, en plus, en plus que ça encore, il paraît.
Hein?
Non, je dis en plus que ça encore, il paraît.
Ouais, non,
On citera pas de nom. Non, non,
ouais,
non.
on
Exactement,
citera
mais
pas,
bon,
non,
mais je
mais
pense
il se
qu'on a tous
reconnaîtra.
compris.
Il se
Voilà.
reconnaîtra,
On a tous ciblé la personne, tout à fait.
Exactement. Exactement.
Bah du coup on va terminer ce premier numéro de cette nouvelle saison de DTC avec donc la question d'ouverture pour laquelle je ferai pas de monologue d'ailleurs. Du coup, à quoi vous jouez en ce moment, Hudson, de ton côté?
Bah écoute, moi pour des raisons professionnelles en ce moment, j'ai pas de vacances, je bosse comme un dingue, donc je suis toujours sur les mêmes jeux qu'il y a 15 jours, à savoir le Last of Us que j'ai pas encore fini, le Remember Me que j'ai pas encore fini, le BioShock pareil, j'ai juste fini le Gunslinger, je me suis bien marré. Bon là, prochainement ça va être un petit peu calme, il y a plus grand chose en news en tout cas, donc voilà, ça va me permettre de finir ça et puis voilà.
Ok, ça marche. Mégatron, de ton côté?
Bah moi, pour Last of Us, j'ai pas avancé non plus. J'ai pas du tout eu le temps de me reposer dessus et ça me fait chier parce que j'aimerais bien continuer parce que ça m'a bien plu. Bah j'ai Project Zone bah, qui est dans la console et que je vais garder parce que je pars en vacances à la fin de la semaine là. Donc je vais me garder ça pour pendant les vacances. Et bah pareil, j'ai pas le temps de jouer donc pauvre de moi, je finis sur Candy Crush sur Facebook. C'est malheureux, mais voilà. Et sinon, quand je prends les transports, je suis quand même sur un petit jeu iOS très très sympa parce que très très beau graphisme. C'est très très mignon. Ça s'appelle Tiny Thief. Donc vous incarnez un petit voleur qui doit voler des objets ici et là dans le tableau. Et c'est un point and click et c'est très très sympa. Donc je vous le recommande. Je crois qu'il vaut 2,50 €. Donc c'est dérisoire et on passe un très bon moment.
Ok,
Voilà.
cool. Redrum.
Eh bien moi, je parfais mon manque de culture console, on va dire. Je suis en train de faire le premier Zelda sur NES
Ok.
que j'avais jamais fait, qui est sacrément dur
Ah ouais, je l'ai jamais
et
fini non plus.
il est très dur. Donc je pense que je vais craquer au Game Genie dans pas longtemps, je pense. Et je viens de finir The Last of Us, qui est absolument indescriptible, ça m'a procuré des émotions que j'avais rarement eues dans le jeu vidéo. En tout cas, je pensais que ça allait être bien, mais pas à ce point-là. Là, ça a mis la barre, en tout cas pour moi, très très haut. J'avais pas eu de jeu aussi bon que ça sur la PS3 depuis le début, hein, en tout cas.
Ok. Et
Voilà.
bah, du coup, si c'est ton exemplaire, tu vas peut-être me le prêter.
Ah ben, si tu veux. Il est déjà
Que...
chez un ami qui est en train de le faire, mais
Ok,
dès qu'il a
ça
fini,
marche.
je te le prête.
Ça marche, ouais, parce que là, je commence vraiment à être de plus en plus curieux que tout le monde dise ça et que. Mais après, moi, je me méfie vraiment beaucoup, beaucoup. En général, quand ça part comme ça, c'est qu'il y a quand même un os quelque part. Hein. Enfin, que je vais forcément réussir à trouver quelque chose.
Bon, tu trouveras des choses, il n'est pas parfait, mais l'histoire et l'expérience
Le jeu est mature, je trouve. C'est
Ouais, c'est
vraiment
ça.
sympa.
C'est ça. Ça s'adresse pas à n'importe qui, en tout cas.
Ok, ça marche parce que donc du coup c'est pas un jeu auquel tu vas jouer devant ta fille quoi.
Non, surtout pas.
Ok.
Et en plus, ça touche la fibre paternelle, donc ça m'a d'autant plus
Oui.
concerné.
Ouais.
Et je pense que c'est ça qui a fait partie de l'émotion que j'ai tirée du jeu.
Ah ok, donc du coup bah ça risque peut-être de me freiner un peu parce que j'avais eu les mêmes retours à peu près sur Heavy Rain où on disait que c'était un jeu mature aussi que pareil ça touchait la fibre paternelle que du coup moi ça m'en avait touché une sans faire bouger l'autre quoi. Donc du coup j'espère que ça me fera pas la même chose avec The Last of
Non
Us, mais
mais
je pense pas parce que c'est déjà un vrai jeu The Last of Us. Bon
oh
d'accord,
le troll
c'est du troll gratuit. Mais bon bref donc pour ma part la dernière fois j'avais parlé de System Shock 2 que finalement j'ai arrêté parce que je me suis trouvé une petite télé dans les poubelles qui marche encore et du coup j'ai donc une petite télé cathodique à laquelle j'ai pu brancher ma Wii pour jouer à un jeu GameCube et qui est Baton Kaitos Origins. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent.
Oui.
C'est lequel? C'est le premier ou le second? Je sais plus.
Non, en fait justement c'est le deuxième mais qui se passe avant le premier.
Oui,
Donc
non,
c'est
d'accord, mais au niveau sortie,
Allez, il est
c'était le
sorti après le
second,
premier.
donc. Ah
Ouais,
ouais,
c'est
ouais, c'est le deuxième. Ouais.
Et d'ailleurs, bah ouais, d'ailleurs, au Japon, même s'il se passe avant le premier, il s'appelle Baton Kaitos 2, qui est un peu bizarre d'ailleurs. Mais bref, le système de combat a été remanié, donc toujours un système de combat avec des cartes et tout, et c'est vraiment excellent. Par contre, c'est un jeu très prenant, donc du coup, c'est pas des petites parties qu'on peut se faire comme ça. Donc du coup, j'ai pas trop le temps de m'y mettre en ce moment parce que pareil, je bosse énormément. Donc du coup, j'ai ressorti ma petite DS sur laquelle je joue à Kingdom Hearts. Alors là, j'arriverai pas à prononcer le nom, le Kingdom Hearts 358/2 Days, qui démarre très 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 lentement. Mais après, une fois que ça part un peu, parce qu'en fait, c'est un système de mission. On se retrouve dans un hub et puis après on part faire des missions tous les jours en gros quoi. Et du coup bah, ça suit l'histoire d'un de mes personnages favoris de toute l'histoire du jeu vidéo qui est donc Roxas qu'on avait vu dans l'intro de Kingdom Hearts 2 et qu'on faisait le prologue avec lui d'ailleurs. C'était moi c'est un personnage qui m'avait vraiment touché, j'avais vraiment adoré son histoire. Et là vraiment on suit c'est tout début dans l'organisation 13 et tout ça et c'est vraiment excellent. Donc du coup, maintenant la deuxième question, quand vous jouez pas, vous faites quoi? Et quand vous travaillez pas aussi, justement, si vous allez au ciné, si vous voyez des expos, des concerts, ce genre de choses, Red Room.
Eh bien, je fais de la photo,
Ok.
pas mal de photos. Sinon, je code, mais ça c'est un peu, c'est peut-être un peu apparenté au travail. Et puis, ouais, ciné de temps en temps. Là, j'ai l'intention d'aller voir The Conjuring bientôt. Voilà.
Ok, ça marche. Mégatron?
Bah écoute, ouais, la photo aussi. Mais là, j'ai pas eu le temps et j'espère me rattraper pendant les vacances. J'ai été au cinéma dernièrement. J'ai été voir Pacific Rim. Bon, voilà, j'ai bien aimé pour l'aspect visuel, mais tout le reste à côté, j'ai été bien déçu.
Ah, même les parties baston?
Non, justement, ouais, enfin, t'as, quand une scène de combat se termine, t'as hâte de voir la suivante, en fait, parce que tout ce qui est entre les deux, c'est niveau zéro.
Exactement, je suis tellement d'accord, quoi.
Enfin bon voilà. Bon après je remercie Del Toro d'avoir porté un film comme ça au cinéma parce que sur le plan visuel c'est juste une perfection. C'est vraiment très très bien travaillé. Enfin voilà j'ai pris mon pied pour les scènes de combat qui sont juste jubilatoires. Par contre à côté bon bah voilà même Perlman qui joue dedans et qui est un des acteurs fétiches de Del Toro. Bah là, tu l'enlèves du film, c'est pas grave, quoi.
C'est lequel?
C'est Perlman, c'est le contrebandier qui
C'est
joue
celui.
le rôle de Hellboy.
C'est
Bon.
c'est lequel? C'est celui qui fait
C'est le contrebandier, en fait, c'est celui qui
celui qui a
a
les chaussures bizarres
Pandore.
là? Non?
Exact, ouais.
Ouais, ok. Bah du coup Hudson de ton côté?
Bah écoute, moi, bah voilà, pas mal de boulot, quelques sorties, quelques potes, quand il fait beau, de la famille, etc. Sinon, bah j'ai vu le film aussi, comme Méga. Bon, je l'ai vu en 3D. Moi, j'ai vraiment aimé. Je trouve que visuellement, c'était vraiment très très fort. Les combats tapent, et puis il y en a pas un à la fin du film. C'est tout le long, ça cogne. Après moi, j'ai pas été déçu par le côté scénario ou autre, simplement parce que j'y allais sans m'attendre à rien à ce niveau-là. Donc j'y ai vraiment été uniquement pour le spectacle. Hein. Et là, faut bien avouer que pour le spectacle, t'en as pour ton pognon, quoi. Donc
Ouais,
vraiment,
c'est vrai que
c'est très très réussi à ce niveau-là. Que ce soit les monstres, que ce soit les robots, ils ont vraiment un design mais juste parfait. On sent vraiment que le Japon est passé par là, mais alors à fond. Non, à ce niveau-là, ouais, enfin, tu passes vraiment un très très bon moment. Après, c'est clair, si tu veux aller voir du scénario, des histoires, des trucs et des machins, il faut pas aller voir ça, quoi. Voilà, il faut clairement aller voir autre chose.
Non, bah je suis d'accord avec toi aussi. J'ai vu le film la semaine dernière et que j'ai vraiment aimé. Enfin, après vraiment ouais pour les parties baston surtout quoi.
Ouais.
Et après je connaissais pas spécialement Del Toro et ses films, donc du coup c'est vrai que la partie scénario je m'attendais peut-être à un truc un peu plus travaillé, mais après ouais je me suis dit quoi, c'est vraiment pas un film. Enfin tu penses vraiment pas à ça quand tu vas voir un film comme ça quoi.
Voilà, exactement. Moi, j'y ai vraiment été en me disant, on va aller voir un film popcorn. en 3D, ça va taper, et puis voilà, c'est vraiment ça que tu as à l'écran.
Exactement. Et par contre, je vais faire une, je vais pas faire une recommandation, mais je vais faire une non-recommandation pour le coup, parce que hier, je suis allé voir comment ça s'appelle, RIPD, Brigade Fantôme, et c'est juste un navet, mais cosmique quoi. C'est l'histoire fait aucun sens, les scènes d'action sont nulles, c'est les personnages sont enfin aucun charisme, c'est vraiment incompréhensible quoi. Je comprends pas comment on a pu faire un film comme ça. Après pour après je me suis renseigné un tout petit peu et j'ai vu qu'ils avaient eu 130 millions de dollars de budget, mais pour faire un film pareil qui dure d'ailleurs 1 heure et demie, c'est juste incompréhensible quoi. Donc surtout n'allez pas voir ce film, ne dépensez pas 10 ou 15 euros pour aller le voir quoi, parce que c'est un étron horrible quoi. C'est ah non, c'est juste pas possible quoi. Donc voilà.
J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait fait penser à Men in Black au pays des fantômes en fait.
Ouais, non mais voilà, c'est ça en fait, ça fait partie de ce genre de film où les meilleurs moments sont dans la bande-annonce en fait quoi.
Ah merde.
Du coup, ouais, voilà. En fait, tu vois la bande-annonce, t'as vu le film, quoi. Parce que finalement, il se passe, enfin, y a rien de, enfin, il y a une espèce de fil rouge, de fil conducteur, évidemment, quoi. Mais c'est vraiment, non, il se passe que des trucs incompréhensibles, quoi. Puis du coup, ça fait pas de sens. Et puis justement, on était dans le ciné, on se regarde avec ma copine, un moment, puis on fait ah mais, puis parce que c'est le film dure 1 heure et demie, donc du coup, ça paraît pas très long. Mais là, on fait ah ouais, c'est long quand même, quoi. Et du coup voilà, donc je vous le déconseille complètement.
Tu avais lu les critiques avant d'aller le voir?
Non,
Parce que là je regarde sur IMDb en même temps et sur le Metascore il a 25%, hein, donc
ah bah voilà, bah c'est ça. Non, mais moi j'ai su
tu es rejoint dans ton avis.
ouais, c'est bon, ça me conforte. Moi j'ai pas des goûts bizarres. Bon bah du coup, si plus personne a quelque chose à ajouter, on va conclure ce numéro de la deuxième saison de DTC. Donc merci à toutes et à tous de l'avoir suivi derrière votre écran. Laissez vos commentaires sur le blog, puisque maintenant DTC a un blog sur Gameblog. En attendant le site qui est en cours de confection, on va dire. Qui sera sûrement disponible prochainement quand on aura du temps, parce que là ça devient vraiment compliqué pour tout le monde. On se retrouve le mois prochain pour un numéro qui sera vraiment centré sur le Québec, mais j'en dis pas plus. Et du coup, n'oubliez pas que le jeu vidéo est un patrimoine à conserver au même titre qu'un autre. Voilà, à bientôt tout le monde, merci de m'avoir suivi et on se retrouve le mois prochain.
À plus,
bye
ciao.
Bye.
Salut.
Bye. Ciao.